De France.
Il est 13h sur Inter. Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Pied au plancher sur la voiture électrique, la France veut multiplier par 4 sa production. D'ici 5 ans, on vous explique ce plan présenté ce matin, mais aussi sa principale limite, la concurrence de la Chine. Le président chinois reçu à l'Elysée ce matin, nous y serons. Et puis à 13h30, un constructeur automobile qui produit tous ses véhicules en France, c'est Ligier et ses voitures sans permis. Son président, François Ligier, est notre invité. On parle des véhicules électriques et de leur prix. On parle aussi du succès des véhicules sans permis avec vous. 01 45 24 7000. Nous serons également dans ce 13-14. En direct de Jérusalem, Israël ordonne l'évacuation de 100 000 Palestiniens dans la bande de Gaza. Est-ce le prélude à une vaste opération au sol? Nous verrons cela. À suivre encore, 3 morts en 2 jours dans des fusillades communes de Sevran, Seine-Saint-Denis. Bonjour François Ventéjou.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
François, vous êtes sur place, les habitants demandent des réponses.
Des réponses car tous se sentent impuissants ce midi, les sentiments sont mélangés, peur, incompréhension, colère, vous les entendrez.
A tout de suite François, c'est la fin des vacances scolaires en ce lundi dans toutes les zones, mais pour de nombreux salariés, la perspective de jours de repos de son férié cette semaine.
Moi j'ai posé vendredi, ouais.
Ah bah ça tue, en posant un jour, on a 3 jours quoi, et du coup plus le week-end 5 jours. Moi je trouve qu'on travaille beaucoup dans le bâtiment, donc un jour dans la semaine ça fait du bien quoi.
Reportage à suivre à Marseille, vous l'avez peut-être deviné, Marseille où nous serons dans une vingtaine de minutes. Pour notre rendez-vous olympique, les Jeux avant les Jeux, la flamme arrive en France. C'est dans 2 jours, mode d'emploi avec Nathalie Yanetta. 13h45, une semaine dans leur vie, de plus en plus de panneaux photovoltaïques sur les toits de nos maisons, ici dans le Var.
Dès le matin, j'ai le soleil qui commence à taper sur les 4 premiers là, et ensuite, vous voyez, sur l'intégralité de mon installation, 16 panneaux là qui envoient. Avec un soleil comme aujourd'hui, bah, j'ai pu brancher mon véhicule électrique. Ce que je produis est envoyé dans mon tableau électrique et consommer.
Vie et mort d'un panneau solaire, c'est notre feuilleton. 13h50, c'est la France à Montargis, la plus chinoise des villes françaises. Ce sera avec Thomas Negaroff. Et puis juste avant 14h, Enrico Macias dans C'est une chanson avec Frédéric Pommier. Il nous demande Dalida. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Entre les Français et la voiture, la relation est abîmée depuis le Covid. Les ventes n'ont jamais retrouvé leur niveau d'il y a 4 ans, 20% de moins en moyenne. Alors, comment relancer ce marché? Le gouvernement français et les constructeurs estiment que cela passe par le développement de la voiture électrique. Ils signent aujourd'hui un contrat pour cela. Objectif, 2 millions de véhicules électrifiés produits dans notre pays d'ici 2030. Nous en sommes à 500 000 aujourd'hui. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Vous avez assisté ce matin à la signature de ce contrat dit stratégique. Il prévoit des aides de l'État.
Oui, aide à la demande, à l'achat d'abord qui intéressera les consommateurs, ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de l'électrique. Le leasing social, vous savez, lancé en début d'année, qui a permis à 50 000 ménages modestes de passer commande, et bien oui. Ce dispositif sera reconduit l'an prochain. Le bonus écologique aussi, hein, qui permet de retrancher une partie du prix lors de l'achat d'un véhicule neuf. Et puis les constructeurs bénéficieront également de facilités, de fiscalité allégée au grand soulagement de la filière représentée ce matin à Bercy par Luc Châtel, le président de la plateforme de l'automobile.
Que ce soit la baisse des impôts de production, que ce soit les dispositifs d'aide à l'investissement en innovation ou en modernisation des PME, en même temps, la compétitivité est un combat de chaque instant.
Un combat jugé par certains même illégal avec la Chine, sa concurrence féroce et sans état d'âme avec les constructeurs européens qui ont aujourd'hui pour leur part beaucoup plus de mal à pénétrer le marché asiatique.
Maxime, ce plan intervient à un moment où beaucoup doutent en fait de l'avenir des véhicules électriques. J'ai trop cher.
Et la réponse de Bercy, c'est que la France n'a pas le choix alors que la vente de véhicules thermiques sera interdite en Europe d'ici 2035. C'est maintenant que ça se joue, après il sera trop tard pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Continuer à développer le thermique, c'est la meilleure façon de prendre un train de retard et c'est la meilleure façon de servir des intérêts étrangers. Car persister dans le véhicule thermique, comme le proposent certaines formations politiques, c'est être pieds et poings liés avec l'énergie qui vient des pays producteurs de pétrole et être pieds et poings liés avec les grands constructeurs qui, eux, sont totalement engagés dans le véhicule électrique et qui vendront leur véhicule électrique sur le territoire français.
pour le ministre. Il faut choisir, veut-on être consommateur ou bien producteur de véhicules, des véhicules de demain, et donc maître de notre destin. La réponse, dit-il, est dans la question.
Merci Maxime Debs pour ses explications. Et donc, dans 25 minutes, réaction de l'un des constructeurs français spécialisé, lui, dans les véhicules sans permis, François Ligier. Alors, l'un des buts de ce plan présenté ce matin est aussi de protéger les constructeurs français, vous nous l'avez dit, Maxime, des Chinois, qui inondent le marché. Leurs voitures débarquent en ce moment par conteneurs entiers. Vous avez peut-être vu les images de ces parkings de ports saturés en Belgique notamment. L'Union européenne accuse d'ailleurs la Chine de subventionner massivement ces constructeurs. Elle a récemment ouvert une enquête. Voilà pourquoi on est curieux de savoir ce qui s'est dit ce matin à l'Elysée entre Emmanuel Macron, le président chinois Xi Jinping en visite en Europe et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Bonjour Dominique André.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes à l'Elysée, on va vous retrouver là-bas dans un instant. D'abord, parole aux producteurs français de cognac qui, eux, craignent les mesures de rétorsion des Chinois. La Chine, c'est un quart des ventes de la boisson charentaise. La famille d'Emmanuel Peintureau est viticultrice en Charente depuis 4 générations. Aujourd'hui, lui regrette que sa filière subisse une fois de plus les aléas de la géopolitique.
Cognac, historiquement, a toujours connu ce genre d'aléas. Malheureusement, ça fait partie de notre histoire et des marchés. Quand le président Trump était au pouvoir et qu'il y avait le conflit Airbus-Boeing, c'est les vins et spiritueux français sur lesquels on est allé taper à grands coups de taxes. Il y a un conflit entre deux groupes ou entre deux États, et puis on va se rabattre sur le patrimoine qui est reconnu mondialement, quoi. Donc après, on espère toujours qu'il y a un gros jeu de diplomatie qui se mette en place entre présidents, entre conseillers, entre ministres, pour calmer le jeu et qu'ils arrivent à des accords et que... Nous, de notre côté, on nous laisse tranquille et qu'on puisse continuer de travailler et envisager l'avenir plus sereinement, quoi. Après, c'est pas forcément que le problème avec la Chine, hein, c'est que le marché mondial, il est un peu en berne avec l'inflation depuis plusieurs mois. Notre marché leader, c'est le marché américain. Lui aussi, c'est pareil, c'est en recul. Et on s'inquiète un peu pour les années à venir si la situation s'améliore pas.
Emmanuel Peintureau, viticulteur en Charente, au téléphone d'Agnès Soubiran. Voilà donc le contexte dans lequel ont échangé ce matin Emmanuel Macron, Xi Jinping et Ursula von der Leyen à l'Elysée. Dominique André, on vous y retrouve. On va donc beaucoup parler voiture aujourd'hui, Dominique. Et il se trouve que le président chinois est arrivé avec la sienne ce matin.
Xi Jinping est arrivé dans la cour de l'Elysée particulièrement sécurisé à bord de la limousine nationale chinoise Rongti, en français le drapeau rouge. C'est une berline que Mao Tse-tung affectionnait. Cette troisième visite d'État de Xi Jinping en France a commencé par une réunion tripartite avec Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne et le président chinois, bien sûr, dans un contexte international tendu.
Alors ça, c'est pour la photo, Dominique. Sur le fond, Emmanuel Macron a redit avant l'entretien que les Européens voulaient des règles de commerce équitable avec la Chine.
Oui. Oui, le président de la République française a d'ailleurs commencé par présenter les enjeux économiques de cette réunion tripartite.
Nous sommes à un tournant de notre histoire qui impose de faire face et de surmonter les difficultés structurelles, qu'il s'agisse des échanges économiques avec une logique de découplage qui serait néfaste ou de notre responsabilité à assurer des règles équitables pour tous. Car l'avenir de notre continent dépendra très clairement aussi de notre capacité à continuer à développer de manière équilibrée les relations avec la Chine, ce qui est notre volonté.
L'Union européenne enregistre d'ailleurs un déficit commercial de 400 milliards d'euros en Chine. Et devant Xi Jinping, la commissaire Ursula von der Leyen a évoqué un déséquilibre intenable. Aux côtés d'Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron espère donc peser plus dans les discussions avec la deuxième puissance mondiale, notamment sur un autre dossier sensible, la guerre en Ukraine. La Chine est la seule grande puissance à pouvoir, pense l'Elysée et Bruxelles, à avoir de l'influence sur Vladimir Poutine, que Xi Jinping a reçu à Pékin en octobre dernier et qu'il accueillera à nouveau normalement à Pékin dans la deuxième quinzaine du mois de mai.
Merci Dominique André, en direct de l'Elysée avec les moyens techniques de Christophe Papon. Dominique, votre podcast Xi Jinping, le prince rouge pour mieux connaître le président chinois est en ligne sur le site de France Inter. Tension donc entre France et Chine dans les relations économiques, on l'a vu. Politique également, on va le voir dans un instant, avec des accusations lancées contre Pékin par plusieurs têtes de liste aux élections européennes ce matin. Avant cela, allons à Pékin précisément pour constater que la diplomatie Q culturelle, elle, fonctionne très bien, à l'image de cette grande exposition consacrée au château de Versailles et visible en ce moment à la Cité Interdite. Elle rappelle l'ancienneté des liens entre nos deux pays. Sébastien Berriot l'a visité pour nous.
La diplomatie culturelle comme fer de lance des relations franco-chinoises, l'idée est loin d'être nouvelle. Louis XIV en avait fait l'une des bases de sa politique pour établir des relations de confiance avec la dynastie Qing. Grâce à plusieurs dizaines d'œuvres prêtées par le château de Versailles, orfèvrerie, porcelaine et tableaux, les visiteurs chinois découvrent une histoire méconnue. Le guide fait visiter l'exposition à un petit groupe de 10 personnes.
Les visiteurs sont étonnés de constater que les deux pays entretenaient des liens aussi proches à l'époque. Prenez par exemple la petite montre de Louis XIV. Eh bien, ce roi était très ouvert d'esprit. Il a mélangé le lys royal français et le dragon chinois sur sa montre de poche, ce qui nous surprend beaucoup.
Un grand intérêt pour la Chine et une certaine fascination. Marie-Laure de Rochebrune, conservateur général au château de Versailles.
C'était la fascination de la cour de France pour tout ce qui vient de Chine, c'est-à-dire des objets qu'on ne connaît pas en Europe, par exemple comme les éventails, les papiers peints. Le papier peint n'existe pas encore au XVIIe ou XVIIIe siècle en France. Et les papiers peints chinois, il y en a partout dans Versailles.
Avec cette exposition, le château de Versailles accroît aussi sa notoriété auprès du grand public chinois en étant présent sur l'un des sites touristiques les plus visités de Chine. À la Cité Interdite, Sébastien Berriot, France Inter.
Pour revenir à la visite du président chinois et de son épouse en France, dîner d'État ce soir à l'Élysée avec également plusieurs artistes chinois. Avant demain, un déplacement dans les Hautes-Pyrénées au col du Tourmalet au lieu du Tour de France. Une visite qui fait l'objet de nombreuses critiques, action de l'ONG Reporters sans frontières qui fait circuler dans les rues de Paris aujourd'hui un camion avec ce slogan « 119 journalistes en détention ». Bienvenue Monsieur le Président. Sur le même thème, le candidat PS Place Publique ce matin aux Européennes, il était sur Inter, Raphaël Glucksmann. Xi Jinping n'est pas notre ami, dit-il. Il accuse le président chinois d'avoir, je cite, « déporté le peuple ouïghour, réprimé les Tibétains et les Hongkongais, réprimé les opposants et menacé les Taïwanais ». Sur la répression de cette minorité musulmane, les Ouïghours en Chine, justement, la candidate du parti d'Emmanuel Macron aux Européennes, Valérie Ayé, a elle aussi été très critique. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
C'était juste avant la présentation de son programme ce matin, présentation que vous avez suivie. Valérie Ayé dénonce un génocide.
Oui, c'est ce qu'elle a dit ce matin chez nos confrères de Sud Radio. Très probablement, on peut penser qu'il s'agit d'un génocide, mais c'est à la justice internationale de trancher. Propos qu'elle a répété en marge de sa conférence de presse tout à l'heure.
Aujourd'hui, la situation des Ouïghours en Chine est intenable. On parle d'internement, on parle d'effacement de la culture et de la langue. On parle de stérilisation forcée. Et ce que j'ai dit ce matin, c'est simplement qu'on devait se poser la question de la caractérisation d'un génocide, que la justice internationale doit faire son travail.
Et elle rappelle que le Parlement européen a déjà adopté plusieurs résolutions pour condamner la situation des Ouïghours. Il faut, dit-elle, avoir un dialogue de vérité avec le président chinois.
Et puis, je le disais, Marie, la tête de liste de la majorité pour ces élections européennes a dévoilé ce matin son programme.
Oui, un programme pensé pour que l'Europe ne meure pas, a vanté Valérie Ayé, avec d'abord tout un volet qui décline l'Europe de la défense, une proposition phare, la création d'un fonds européen de soutien aux industries de la défense, financé par un grand emprunt de 100 milliards d'euros et l'idée d'une préférence européenne, c'est-à-dire de réserver les marchés publics en matière d'armement à des acteurs européens. Un volet consacré à l'économie ensuite, avec notamment un plan Europe 2030, 1000 milliards d'investissements publics et privés pour financer des grands chantiers industriels, nucléaire, intelligence artificielle, santé ou espace. Et puis enfin, un volet démocratie avec, entre autres, l'inscription de l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Une mesure symbole qui a peu de chances d'être adoptée, car elle requiert un vote à l'unanimité des États membres.
Merci Marie Mollet. Si vous souhaitez interroger les candidats à ces élections en direct sur l'antenne d'Inter et que vous avez entre 18 et 23 ans, c'est la condition, eh bien vous pouvez poser votre candidature, ça se passera dans la matinale et vous candidatez dès maintenant sur le site de France Inter. Les assises de lutte contre l'antisémitisme ouvertes ce matin par le gouvernement, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, veut créer, dit-elle, un espace de dialogue entre associations et représentants des cultes. Les actes antisémites en France ont été multipliés par 4 l'an dernier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Tout cela en écho à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Les négociations pour parvenir à une trêve se poursuivent, mais dans le même temps, Israël ordonne ce matin l'évacuation de 100 000 Palestiniens au sud de la ville de Rafah. C'est tout près de la frontière avec l'Égypte. Alors on se demande si cela n'annonce pas une vaste opération militaire au sol. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, 100 000 personnes, bien sûr, c'est beaucoup de monde, mais vous nous dites que c'est finalement une évacuation limitée.
Oui, c'est ce que dit ce matin l'armée israélienne. Pas d'évacuation massive, mais des tracts envoyés ce matin sur une zone restreinte entre l'Égypte à l'ouest et le point de passage de Kerem Shalom au sud. L'objectif, c'est d'inciter les habitants à rejoindre les camps de déplacés d'Al-Mawazi au nord. L'armée israélienne dit avoir étendu l'espace d'accueil, apporté de l'aide humanitaire. Information difficile à vérifier d'ici et difficile à croire sur place, comme l'a assuré tout à l'heure Mohamed, pris au piège depuis plusieurs semaines dans le cul-de-sac de Rafah.
Les gens ne savent pas où aller, c'est la confusion totale. Al-Mawasi est déjà surpeuplé de déplacés. Tout le monde ici sait qu'il n'y a aucune zone sûre à Gaza, du nord au sud, d'est en ouest. Le danger est partout. Personne ne croit en ce que dit l'armée israélienne.
L'armée israélienne qui n'a jamais attaqué au sol Rafah depuis le 7 octobre, mais qui bombarde quotidiennement ce qu'elle considère comme le dernier bastion du Hamas. 28 morts hier, dont 11 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, lié à l'organisation islamiste.
On entend, Thibault, le gouvernement israélien communiquer depuis des jours sur une offensive à Rafah. Cela veut-il dire qu'elle est imminente ?
Non, imminente non. En cas d'offensive au sol, il y aura d'abord d'autres zones civiles à évacuer et selon les estimations, ces opérations devraient prendre au moins plusieurs jours. Et puis les négociations continuent, vous l'avez dit, même si l'optimisme de la semaine dernière n'est plus à l'ordre du jour. Israël avait promis, c'était un accord ou la guerre. Aujourd'hui, il n'y a pas de compromis, mais il n'y a pas non plus d'invasion de Rafah. Cette évacuation limitée de civils est donc une menace, une pression supplémentaire sur le Hamas, alors qu'une réunion d'urgence est prévue aujourd'hui au Qatar pour tenter de sortir de l'impasse.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Ce matin, le gouvernement allemand, pourtant l'un des plus fidèles soutiens d'Israël, critique sa décision de fermer la chaîne qatari Al Jazeera. Mauvais signal pour la liberté de la presse, estime le ministère allemand des Affaires étrangères.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Deux fusillades mortelles en trois jours à Sevran, en Seine-Saint-Denis, à une dizaine de kilomètres à l'est de Paris. Un mort et plusieurs blessés graves, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis, hier, en fin d'après-midi, de nouveaux morts, deux hommes âgés de 35 et 31 ans. Les autorités font le lien avec les trafics de drogue. Quoi qu'il en soit, et dans les deux cas, les tireurs ont pris la fuite, laissant derrière eux des riverains désemparés. François Ventéjou, on vous retrouve sur place. François, vous êtes allé ce matin à la rencontre des habitants.
Et des habitants encore sous le choc. Certains ont tout vu, tout entendu de la fusillade d'hier soir. Elle a eu lieu au pied des immeubles et de l'aire de jeu pour enfants. Alors ce midi, le calme est apparent. Alpha vit ici depuis 16 ans. Elle résume le sentiment.
On a peur, on a toujours peur. Le problème, c'est la journée. J'ai mon fils, 15 ans, des fois il joue au foot ici. Là, je peux pas, si je vais le laisser sortir encore.
Des mères de famille inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Fatim ne se voit pas vivre ici longtemps.
Nous aimerions vraiment quitter le quartier. Franchement, honnêtement, moi, j'aimerais quitter le quartier parce que j'accueille des enfants à bas âge. J'ai peur qu'ils deviennent, quoi que ce soit. Franchement, l'éducation, c'est pas facile. Vivre dans une cité où il y a toujours des fusillades avec des enfants à bas âge, ils grandissent avec. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour la France, c'est pas bon.
Un sentiment d'impuissance face au fléau du trafic de drogue. Thierry aimerait des réponses fortes de l'État.
On voit bien que l'opération Place Nette n'a servi à rien, voire même peut-être à amplifier les choses, peut-être en déstabilisant certaines structures et favoriser des luttes de pouvoir et qui amènent à de tels événements dramatiques.
J'ai qu'une hâte, c'est de partir d'ici, ajoute-t-il, et pour aider les habitants du quartier, deux cellules psychologiques ont été ouvertes.
Merci François Ventéjou, en direct de Sevran, avec Julien Girard pour la liaison technique. Les forces de l'ordre qui vont avoir du travail sur les routes cette semaine, avec deux jours fériés consécutifs, mercredi et jeudi, la circulation s'annonce évidemment chargée. Drapeau rouge demain partout dans le pays, dans le sens des départs. Ce sera orange samedi pour les retours, puis rouge, voire noir dans le nord-ouest dimanche. Ça nous donne donc un pays coupé en deux entre ceux qui ont pu et qui ont choisi de poser leur vendredi et les autres qui resteront sur le pont sans mauvais jeu de mots. Bonne affaire en tout cas pour ces salariés marseillais que vous avez rencontrés, Fabien Ledu.
Jordan, électricien dans un groupe de BTP, avait coché cette semaine depuis longtemps sur son calendrier.
Moi j'ai posé vendredi, ouais.
Il faut dire que le calcul est particulièrement intéressant.
Ah bah ça tue. En posant un jour, on a trois jours quoi. Enfin, du coup plus le week-end, cinq jours. Moi je trouve qu'on travaille beaucoup dans le bâtiment. Donc un jour dans la semaine, ça fait du bien quoi.
Son entreprise sera à l'arrêt total cette semaine, tout comme la société de Véronique, qui a préféré fermer ses portes.
Moi, je ne l'ai pas posé. On a une RTT société, donc la société sera fermée vendredi, c'est imposé.
Evan dirige une dizaine de personnes dans une carrosserie. Il va baisser le rideau pendant 5 jours, mais avec le sourire.
On est les premiers à être contents de pouvoir faire 5 jours de pause. On travaille de manière acharnée toute l'année, on est contents.
Un pont beaucoup moins marrant pour Patrick.
Le mois de mai, c'est une purge pour le commerce.
Son restaurant est en plein cœur de la zone d'activité. Cette semaine, il le sait, ce sera désert.
On passe d'une centaine de couverts jour à une cinquantaine. On perd la moitié. Donc sur un mois où on a les charges qui sont égales aux autres mois, ça fait un trou sur la trésorerie.
Après ce pont, il restera le week-end prolongé de la Pentecôte dans deux semaines.
Reportage France Bleu Provence sur ce pont qui en plus sera ensoleillé. Retour du soleil cette semaine. On voit ça avec Élodie Calac dans une dizaine de minutes. Nous sommes à Marseille. Restons-y pour notre rendez-vous olympique. Les Jeux avant les Jeux. Bonjour Nathalie Yaneta.
Bonjour Jérôme.
Directrice des sports de Radio France, la flamme olympique arrive à Marseille. Ce sera après-demain, après 12 jours de traversée depuis la Grèce. Le nageur Florent Manaudou en sera le premier porteur sur le sol français. Vous allez nous expliquer comment ce périple en France, métropole et outre-mer va se dérouler. Il faut d'abord dire, Nathalie, que c'est un défi sécuritaire rarement vu dans notre pays.
Oui, plus de 6000 policiers vont être mobilisés à Marseille, sur le Vieux Port et tout autour. C'est plus que lorsque le pape est venu en septembre dernier. C'est un dispositif, nous dit-on, terre, air, mer. En clair, des policiers du raid aux marins-pompiers en passant par un avion AWACS pour surveiller l'espace aérien. Mais la réalité, Jérôme, c'est que les inquiétudes des organisateurs pour ce relais, elle est moins pour l'arrivée mercredi à Marseille, que pour les 400 autres villes et villages qui seront traversés par cette flamme durant les 69 jours suivants. C'est un dispositif rapproché sans précédent par rapport aux autres Olympiades qui est organisé pour entourer chacun des 10 000 porteurs, une sorte de bulle de sécurité parce que la flamme, si elle est un symbole, elle est aussi du coup une cible. Et on imagine bien que les contestataires en tout genre ne manqueront pas d'essayer au moins de perturber le relais. Je dis en tout genre parce que bien sûr, il y aura les opposants dits habituels aux Jeux Olympiques. Mais il y a beaucoup d'autres causes qui vont essayer de trouver un écho hors norme en faisant irruption sur ce trajet. Ils ont 12 000 kilomètres quand même devant eux pour pouvoir le faire. Ces opposants, ils sont tellement motivés et préparés que le ministère de l'Intérieur a dénombré des nombreux tutos, figurez-vous, sur Internet pour expliquer comment éteindre la flamme.
Oui, la crainte des départements et des villes qui vont accueillir cette flamme, c'est évidemment que ça se passe mal. D'autant qu'il y a déjà eu des critiques, Nathalie, sur le tarif demandé par les organisateurs.
Oui, on va rappeler que pour accueillir la flamme, il fallait que les collectivités postule et que le niveau administratif qui avait été identifié par les organisateurs, c'était les départements. La France, elle en compte 96 de départements. Eh bien, il n'y en a que 65 qui ont accepté de payer les 150 000 euros demandés par le comité d'organisation qui dit que c'est une participation aux frais de ce relais. En gros, c'est un quart du coût de passage. Le reste est supporté les marques et les partenaires et le comité d'organisation. Et pour certains, effectivement, c'était trop cher ou alors pas rentable. Dans un département peuplé, on va le qualifier comme ça, le passage de la flamme, en gros, c'est estimé à 9 centimes par habitant. Mais par exemple, si on prend la Lozère qui a une très faible démographie, le coût grimpe à plus de 2,30 euros et donc là c'est non. Mais à l'inverse, il y a des villes qui ont décidé d'y aller quand même sans leur département en faisant une alliance. Je pense par exemple à Montpellier, Sète et Millau. Ils vont accueillir la flamme sans que l'Hérault et l'Aveyron n'y soient favorables. Et c'est la même chose en Gironde, Bordeaux, Libourne et Saint-Émilion.
Vous parlez de Millau pour son viaduc, Saint-Émilion et ses vignes. Le relais, c'est un peu le dépliant publicitaire de la France.
Ouais, c'est un peu la vitrine avec les paysages, la carte postale. Évidemment, il y aura le Mont-Saint-Michel, il y aura le Mont-Blanc. Mais on ira jusqu'à l'excellence technologique avec le centre de tir d'Ariane Espace à Kourou, en Guyane. Parce que oui, l'une des grandes innovations, on l'avait déjà dit ici, mais c'est ce relais des océans. Et je vais vous dire un truc, c'est peut-être le seul moment où les services de sécurité vont souffler un peu.
Merci Nathalie Yanetta, on leur souhaite en tout cas, je vous dis à mercredi, hein, vous serez évidemment en direct de Marseille pour nous faire vivre l'arrivée de cette flamme olympique en France. Là, c'est pour ce soir, 35e nuit des Molières, les meilleurs spectacles et interprètes de l'année au théâtre seront récompensés. On va voir dans une minute que le théâtre fait recette avec des entrées en hausse, mais le théâtre, c'est aussi pour tous ceux qui ont parfois du mal à prendre la parole en public, une solution. Ainsi, à Rouen, la société Transdev a mis en place des formations théâtralisées pour faciliter les échanges de ses conducteurs avec les voyageurs, et cette formation remporte un franc succès. Erwan Chassin, vous avez pu assister à l'un des ateliers de cette formation.
Ce jour-là, 5 conducteurs de bus s'improvisent comédiens.
T'as décidé de me poire la vie aujourd'hui.
T'as pas besoin de moi pour ça.
Ils jouent des scènes de la vie quotidienne autour de leur formateur, André-Jean Grenier, lui-même comédien.
Il y a des outils de communication pour voir l'autre d'égal à égal et de pas dire à l'autre, je vais te dominer, mais je te vois comme quelqu'un, je comprends ta frustration.
Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête ce petit jeu avec moi, je ne suis pas... pas d'humeur.
Elle, c'est Véronique, conductrice de bus et parfois confrontée à des passagers avec qui il faut garder son calme.
Il faut qu'on soit comme les gens voudraient qu'on soit. C'est-à-dire que s'ils ont décidé de descendre à cet arrêt entre deux arrêts, ben, faut le faire.
L'objectif de cette formation, c'est de donner justement aux conducteurs les moyens de faire face à ces incivilités du quotidien, mais surtout à les anticiper. Par exemple, parler dans le micro du bus pour expliquer aux passagers les différentes situations ou de gérer des tensions entre deux voyageurs, explique par exemple Gwenaëlle Mébarki, directrice des ressources humaines à Transdev Rouen.
Cette journée de formation est là pour donner la maîtrise technique et aussi leur donner confiance en eux, nos conducteurs, puisqu'ils n'ont pas véritablement l'habitude de prendre la parole en public.
Des incivilités qui ne cessent cependant de diminuer selon les chiffres de Transdev. Ces 4 dernières années, elles ont même baissé de 15% sur l'ensemble du réseau.
En reportage France Bleu Normandie, le théâtre qui est aussi plébiscité donc par les spectateurs. L'après-confinement a été un peu difficile, mais le public est de retour dans les salles, notamment dans le théâtre privé. Plus 16% de fréquentation la saison dernière. 7-8 millions de billets vendus. Caroline Verdu est la directrice du théâtre de la Pépinière à Paris. Elle est aussi la présidente du pôle théâtre au sein du nouveau syndicat Écoscène.
On est revenu à des chiffres comparables à ceux de 2018 et 2019, qui étaient tout de même des bonnes années. Le théâtre se renouvelle, le théâtre va vers les jeunes. C'est aussi la preuve que le théâtre ne se repose jamais sur ses acquis, mais essaye toujours d'aller chercher des nouveaux talents. On est en constant renouvellement et c'est vrai que malgré toutes sortes d'aléas, c'est compliqué d'aller au théâtre. D'abord parce qu'on fait du télétravail, parce qu'il faut faire garder les enfants, parce que la circulation dans les villes qui proposent du théâtre n'est pas toujours simple. Eh bien, les gens viennent quand même, les gens ont envie de lien social. C'est un pied de nez à tout notre environnement, à toute la difficulté de la vie. Les gens continuent à avoir envie de rire, de pleurer, de s'émouvoir. Et ça, c'est une joie.
Caroline Verdu au téléphone de Stéphane Capron. Les Molières, ce soir, diffusé en léger différé sur France 2, organisé aux Folies Bergères, cérémonie animée cette année par l'humoriste Caroline Vigneault, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure. La météo ensoleillée, ce sera pour le cœur de la semaine. Pour l'instant, il y a encore un peu de pluie. Ce sera avec Elodie Calac. Puis à 13h30, nous parlons donc du succès des véhicules sans permis. Une goutte d'eau, c'est vrai, dans le marché automobile français, mais qui ne cesse de grossir. Le patron du groupe Ligier, François Ligier, est avec nous. C'est l'un des principaux constructeurs français de ce secteur. J'attends vos questions. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton. Nous suivons la vie d'un panneau photovoltaïque, de sa pose à son recyclage. Et puis à 13h50, Thomas Négaroff, Frédéric Pommier sont là. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme.
Dans C'est la France, Thomas, passion Loiret, on y était lundi
dernier. Oui, c'est vrai.
Vous y retournez? Bah oui. Ouais. Et là, c'est pour parler du président chinois et de sa visite.
Étrange, non?
Oui.
On va dans la capitale du Gâtinais, à Montargis, qui a une relation très profonde et très ancienne avec le Parti communiste chinois.
Vous allez nous expliquer tout cela. À votre micro, Frédéric, un chanteur.
Un monument de la chanson française.
Bah moi, j'osais pas, mais vous avez raison d'y aller.
Un monument, Enrico Macias, il est actuellement en tournée et il nous parlera de son ami
d'Alida et de sa chanson Bambino qui a beaucoup compté dans la vie d'Enrico.
Ça fera beaucoup de monuments en quelques minutes seulement. A tout de suite.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité et durabilité. Votez pour l'avenir, achetez Akena. Je peux pas, je suis déjà reine. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Bon, pluvieux à l'est et orageux à l'ouest aujourd'hui.
Exactement, on a des pluies qui circulent des Pyrénées et de la Méditerranée vers Rhône-Alpes, le Jura, l'Alsace et la Lorraine, avec un orage possible sur les Pyrénées ou sur la Provence, de la neige au-dessus de 2000 mètres en montagne. On trouve tout de même des éclaircies sur les côtes du Languedoc-Roussillon avec du vent jusqu'à 60 km à l'heure, du soleil sur la Corse, des éclaircies plutôt belles du sud de l'Aquitaine vers le Massif central, la Bourgogne, l'Île-de-France, le nord de la Seine avec quelques averses. Et c'est vraiment sur le nord-ouest, le centre-val de Loire jusqu'au nord de l'Aquitaine que les averses sont les plus nombreuses sous un ciel bien encombré. Elles peuvent prendre un caractère orageux dans l'après-midi. Le vent souffle jusqu'à 60 km à l'heure. Les températures sont en baisse, un petit peu fraîches avec 15 à 19 degrés jusqu'à 21 à Marseille, 25 en Corse. Et puis patience, hein, encore des averses demain, mais le soleil et la douceur vont progressivement revenir à partir de mercredi.
Voilà, mercredi pour le soleil. Rendez-vous est pris. Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour François Ligier.
Bonjour.
Vous êtes le président de Ligier Group, entreprise familiale fondée par votre grand-père Guy. Nous sommes à Vichy, dans l'Allier, votre grand-père passionné de sport automobile et de Formule 1. On s'en souvient, Ligier est un nom qui résonne évidemment à l'oreille des Français. Mais votre grand-père a aussi lancé dans l'Allier la fabrication de voiturettes sans permis, voitures que vous produisez depuis plus de 40 ans maintenant. 500 salariés pour votre groupe, 196 millions d'euros de chiffre d'affaires, des véhicules produit en France, avec depuis l'an dernier un modèle électrique. On va parler de ce tournant de l'électrique dans lequel s'est engagée l'industrie automobile européenne, de l'engouement également pour ces voitures sans permis, et puis de la difficulté ou de la facilité d'ailleurs à produire en France. Tout cela avec vous et avec les questions des auditeurs. 01 45 24 7000, vous passez aussi par l'application France Inter. François Ligier, je vais profiter de votre présence pour vous faire réagir aux annonces de ce matin. Le plan stratégique pour le développement du véhicule électrique en France. Bruno Le Maire réunissait la filière automobile pour parler de la stratégie. L'objectif du gouvernement, c'est de multiplier par 4 en 3 ans les ventes de véhicules électriques en France, donc passer de 200 à 800 000. Est-ce que ça vous paraît jouable? On a le sentiment qu'aujourd'hui, on est un peu sur un palier, qu'il y a une sorte d'hésitation des automobilistes à aller vers l'électrique. Est-ce qu'il peut y avoir ce décollage-là dans les années qui viennent, selon vous?
Je dois nous le souhaiter, à vrai dire, c'est le consommateur qui choisira.
Ouais.
En tant que conducteur, chaque jour, je roule en véhicule électrique, je fais tous mes trajets autoroutiers en véhicule électrique, et c'est un vrai plaisir. En revanche, ça transforme la façon d'utiliser son véhicule, ça transforme la façon de se déplacer.
Est-ce qu'aujourd'hui, le prix reste la barrière principale qui dissuade peut-être beaucoup d'automobilistes?
Certainement, quand vous regardez le parc automobile et le prix moyen de vente d'un véhicule électrique, alors certes très subventionné, mais il reste plus cher que son homologue thermique, même si aujourd'hui les offres de location permettent de considérer le prix avec un angle différent.
Il y a beaucoup d'hésitation, même chez les constructeurs d'ailleurs. Est-ce qu'il faut accélérer sur l'électrique? Est-ce qu'il faut rester sur le thermique? Vous, comment vous faites en tant que dirigeant d'entreprise, produisez des voitures, pour poser le curseur, pour dire on va produire tant d'électrique, tant de thermique, on va faire la transition, mais à cette vitesse-là, comment on fait pour choisir?
Alors évidemment, notre taille d'entreprise est très différente de celle des grands constructeurs automobiles
français.
Vous
n'êtes pas Stellantis, je vous l'accorde.
On n'est pas Stellantis, en revanche, on fait les choses avec beaucoup de volonté et avec des moyens qui sont les nôtres. Et pour faire ces choses-là, il faut investir massivement dans le produit pour l'adapter, pour le transformer, pour le rendre électrique, et puis le rendre électrique à un prix qui correspond à celui qu'attend le client. Alors la réalité, c'est qu'on a lancé notre première gamme électrique l'année dernière.
Ouais.
On n'est pas encore complètement à cet objectif prix qui permet cette transition. Et puis,
parce que vous êtes, en termes de prix, moi j'ai vu 13 300 euros pour la Mili, c'est comme ça qu'on dit.
La Mili,
la Mili électrique, c'est ça.
Dans son premier niveau, là où vous pouvez avoir un équivalent thermique des 11 000 euros. Donc on a encore un petit écart de prix à combler, mais on y travaille chaque jour pour arriver à compenser cette différence entre thermique et électrique.
11 000 euros, c'est le prix du modèle entrée de gamme, on va dire, chez vous pour le thermique.
Oui.
Et 13 300 pour l'électrique avec le bonus, hein, bonus inclus.
Oui.
Donc vous dites qu'il faut qu'on baisse.
baisse.
Un petit peu, oui.
Comment est-ce que vous pouvez faire ?
Alors, ça passe évidemment par l'enjeu industriel, être plus performant dans notre production. Ça passe aussi par notre capacité à trouver les bons composants au bon prix. Et la batterie est une part très importante de ce coût de véhicule. Et donc, l'enjeu de cette batterie, une batterie qui dure dans le temps, une batterie qui est fiable, une batterie qui donne satisfaction à l'usager, et en même temps, une batterie qui est suffisamment performante, à la fois dans l'autonomie qu'elle donne et dans le prix auquel on l'achète.
Vos véhicules sont fabriqués en France ?
Toutes nos productions sont faites en France, oui.
C'est dans Vendée et dans l'Allier, je crois, c'est ça,
voilà,
les sites
usines,
de production.
Ouais.
Mais les pièces aussi que vous utilisez, les batteries aussi, sont produites en France?
Alors,
ou en Europe ?
70% des composants qui font nos véhicules viennent de France. Nos batteries viennent de France également. Elles sont fabriquées du côté d'Angoulême. Même si les cellules qui sont à l'intérieur, comme 99% de la production vient d'Asie, mais cette batterie, elle, est assemblée en France.
Comment vous faites pour tirer le meilleur prix ? Vous dites, il faudrait qu'on baisse de 2000 euros le prix de notre véhicule, vous allez voir vos fournisseurs et vous faites jouer la concurrence, tout simplement ?
Alors, la négociation fait un bout du chemin, mais elle ne fait pas tout.
Non.
Le design et la conception font un autre bout du chemin. Et ensuite, c'est aussi ce débat de, mais est-ce que le rôle de l'IGI est d'être le moins cher du moins cher sur ce marché ? Eh bien, mon parti pris est que non. Et mon parti pris est qu'au contraire, on doit apporter à notre consommateur, pour le bon prix, également les bons niveaux d'équipement qu'il va chercher, d'optionnage, de capacité à personnaliser le véhicule, d'avoir du confort, qui est celui qu'il attend.
Vous visez quelle clientèle ? Vous dites on veut pas être le meilleur marché du véhicule sans permis électrique. Vous visez quelle clientèle ?
Alors les clientèles sont très très différentes les unes des autres. Vous avez des populations très jeunes qui dès 14 ans peuvent acheter un véhicule dit sans permis, même s'il leur faut le permis AM. Vous avez également des personnes plus âgées en milieu rural qui cherchent un véhicule qui leur donne autonomie et liberté pour pouvoir se déplacer dans leur quotidien.
Là on parle électrique ou thermique ?
Peu importe, électrique ou thermique.
Peu importe. Question de Guillaume, des auditeurs d'Inter, déjà nombreux pour vous, François Ligier. Guillaume qui nous dit, je voudrais savoir pourquoi les voitures sans permis coûtent aussi cher alors qu'il y a beaucoup moins de matériaux dessus que les véhicules avec permis. Je complète sa question.
Alors, plusieurs morceaux de réponse. Le premier bout de réponse, c'est qu'un véhicule sans permis coûte aujourd'hui sur le marché entre les différentes marques entre 8 000 et 20 000 euros. Vous avez aujourd'hui peu de voitures automobiles en dessous de 20 000 euros. Donc finalement, en termes de comparaison, on n'est pas si cher que ça par rapport à une voiture traditionnelle. L'autre raison, c'est que nous fabriquons chez Ligier 16 000 véhicules en 2023. C'est ce qu'un grand constructeur doit faire en une demi-journée. Donc nos effets d'échelle sont très différents.
Plus on produit, moins le véhicule produit est cher. Et donc forcément, quand on en produit 16 000 fois 365, c'est pas comme quand on produit 16 000 en un an.
Exactement.
C'est ça un peu le raisonnement. Cédric nous appelle du département du Gard. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Vous voulez nous poser des questions précisément sur le véhicule électrique et sur les batteries ?
Oui, c'est ça. Je me demandais où en était la filière de recyclage des batteries, puisqu'on produit des véhicules électriques à tout va. Vous avez parlé ce matin d'un contrat qui a été signé au niveau de Bercy pour développer encore plus, et on sait que l'extraction des minéraux pour les batteries sont une aberration écologique. Donc je me demandais où on en était du développement des centrales, des plateformes de recyclage pour ces batteries qu'à l'heure actuelle on ne sait pas assez bien recycler.
Merci Cédric pour cette question que je soumets à François Ligier, qui ne fabrique pas des batteries mais qui en met dans ses voitures.
Qui en met dans ses véhicules. Cette question elle est tout à fait légitime et complètement stratégique de se dire, mais finalement cette batterie, quand le véhicule est arrivé en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'elle est foutue et juste bonne à être détruite ? Est-ce qu'elle peut avoir une autre utilisation dans des applications qui sont différentes ? L'application automobile est la plus exigeante en termes de technicité parce que les cycles de charge et de décharge sont très importants. Dans une batterie stationnaire, par exemple, pour s'associer à du photovoltaïque, vous avez des cycles qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus doux et qui permettent à une batterie qui aurait fait 8 ans, par exemple, déjà dans une voiture, d'avoir un usage différent. Et puis le dernier point et la question de monsieur, c'est de se dire que cette batterie, une fois qu'elle a fait tous ses cycles de vie qui peuvent peut-être l'amener à 8, 10, 15 ans d'exploitation, est-ce qu'elle doit être détruite et dans quelles conditions ? Et là, des filières de recyclage qui sont encore embryonnaires sont en train de se construire sur le territoire pour être capable de démanteler ces batteries, de trier les matériaux qui sont dedans. Alors c'est très dépendant également des choix de technologie de batterie. Vous avez des batteries lithium fer phosphate, vous avez des batteries au nickel, vous avez des batteries bref de technologies très différentes qui influent la filière de recyclage.
Qu'est-ce qu'elles deviennent aujourd'hui les batteries de vos véhicules ?
Alors c'est beaucoup trop tôt pour se le dire parce que la réalité c'est que nos premiers véhicules sont commercialisés depuis moins d'un an et donc
a priori, ils fonctionnent encore, d'accord. Mais vous ne savez pas,
on a, voilà,
vous faites confiance développement de recyclage.
Et puis nous avons lancé pour des véhicules plus anciens, qui sont des véhicules professionnels également électriques que nous commercialisons, et bien nous avons lancé un programme de reconstruction du véhicule, où le véhicule rentre après 6-7 ans d'exploitation, d'utilisation par le client, va être modernisé, on change les suspensions, on change les freins, on modernise le produit pour lui donner une seconde vie avec sa batterie.
Quelle est l'autonomie d'un véhicule chez vous ?
Sur nos véhicules sans permis LGE, l'autonomie va de 60 km jusqu'à 180 km suivant le cycle d'utilisation et suivant la taille de batterie que l'on choisit, différentes batteries dans le véhicule pour différents prix de vente.
En même temps, je m'interroge, François Ligier, pourquoi acheter un véhicule sans permis électrique, plus de 10 000 euros, on l'a dit, quand je peux avoir un vélo électrique, moins de 1 000 euros. On fait pas, tous les usages ne sont pas en commun, mais il y a quand même des usages en commun. Et je suppose qu'avec une voiture sans permis électrique, on ne traverse pas la France. On rayonne dans sa proximité, si je puis dire.
Aucun débat là-dessus. La voiture sans permis est un objet de mobilité parmi d'autres. Quand vous êtes dans une grande agglomération comme Paris, avoir une voiture sans permis, c'est un non-sens. Vous avez déjà le transport en commun, vous avez les pistes cyclables partout, vous avez tonnes de solutions. En revanche, quand vous êtes plus proche de la ruralité, quand vous êtes plus proche de villes de petite taille en France, eh bien, ce véhicule sans permis, il vous donne cette liberté, il vous donne votre autonomie. Et quand vous êtes à 15 km du bourg le plus proche de chez vous, dans une campagne très isolée, vous n'imaginerez pas faire ce déplacement en vélo électrique en hiver quand il pleut, que la roue est boueuse et qu'elle devient dangereuse.
Vous parlez de milieu rural, de route boueuse. On pense peut-être à une clientèle de seniors au volant de vos véhicules. Je suis allé sur votre site internet. On ne voit que des images de jeunes souriants qui sont assis sur des véhicules tous en couleur. C'est ça votre cible aujourd'hui, la voiture sans permis? Ce sont les plus jeunes?
C'est aussi ça. Alors notre clientèle senior, elle est importante pour nous, mais elle aime aussi qu'on lui montre qu'elle est jeune. Elle aime aussi qu'on lui montre qu'elle a sa place dans notre marché. Et puis de plus en plus, effectivement, une clientèle qui est faite soit d'adolescents qui cherchent de l'indépendance, qui cherchent de la sécurité, leurs parents préfèrent les voir sur quatre roues que deux roues. Et puis également une clientèle de personnes qui n'ont pas le permis de conduire, mais chaque jour travaillent. Et chaque jour travaillent et accomplissent leur indépendance avec nos véhicules.
On est quand même sur des familles qui ont déjà un petit peu les moyens pour acheter ça à son enfant.
Alors
on
pour le public,
un peu plus de 10 000 euros.
Oui, effectivement, pour le public de 14 ans, et on a une famille qui est capable d'investir dans un produit qui a un certain prix, alors qui peut être loué à dès 90 euros par mois chez Ligier, et qui permet aux parents de donner de l'autonomie, l'indépendance, l'apprentissage à la route aussi, parce que ce jeune qui s'entraîne dès 14 ans sur un véhicule sans permis à faible vitesse, 45 à l'heure maximum, et bien quand il arrive à 18-19 ans, qu'il passe son permis de conduire, il a déjà les réflexes du flux de circulation, il a déjà les réflexes de la ville.
Est-ce que vos clients sont aussi des gens qui ont perdu leur permis, qui se sont fait retirer leur permis ?
Très marginalement, parce que vous n'achetez pas un véhicule à 12 000 euros pour 3 mois de retrait ou 4 mois de retrait. En revanche, vous pouvez ponctuellement le louer. Donc nous vendons à peu près 3% de notre chiffre d'affaires est fait sur des entreprises de location qui mettent à disposition ces véhicules. Mais c'est très rééducateur, parce que quand vous êtes coincé à 45 à l'heure et que vous aviez l'habitude de rouler beaucoup trop vite, eh bien ça vous apprend à voir cette route différemment.
Question de Guy, je parlais du vélo à l'instant, je m'interrogeais sur peut-être parfois le bénéfice d'un vélo électrique par rapport à une voiture sans permis électrique elle aussi. Guy vous demande, pensez-vous produire des vélotos ou vélos à quatre roues à assistance électrique ?
Oui, c'est un concept qu'on commence à voir apparaître auprès de quelques entreprises. Un concept très intéressant de vélo mobile, véloto, je reprends l'expression de Guy, des engins à pédales avec une petite carrosserie tout autour qui permet de se déplacer. Avec...
C'est pas des vélos cargo, il y a vraiment une carrosserie.
Il y a une carrosserie,
mais on pédale.
Et on pédale et on est enfermé dans cette bulle qui est très aérodynamique souvent. C'est un marché très spécifique qui pour le moment n'est pas le marché de Ligier. En revanche, Ligier se pose la question de la mobilité plus douce et donc nous développons actuellement une gamme de vélos cargo à usage professionnel.
C'est-à-dire donc pour des livraisons essentiellement.
Voilà, on voit cet enjeu du dernier kilomètre, cet enjeu de la livraison de cœur de ville et ce besoin qu'ont certains utilisateurs professionnels d'engins plus robustes, plus solides avec du service et de l'accompagnement. Et nous sommes en train d'investir ce segment du vélo cargo électrique.
Qui est, selon vous, porteur ?
Qui est, selon moi, très porteur. L'arrivée des ZFE après-demain forcera les cœurs de ville à se transformer.
Zone à faible émission.
Zone à faible émission forcera les cœurs de ville à se transformer et forceront les logisticiens à adapter leurs moyens de livraison.
Vous produisez en France, on l'a dit François Ligier, est-ce que le coût du travail dans notre pays par rapport à d'autres pays est pour vous un problème ou pas ?
Je produis en France et c'est une fierté de produire en France. Mon enjeu est de développer cette industrie sur nos territoires et produire en France, c'est pour moi à la fois un sacerdoce mais aussi une fierté. sacerdoce parce qu'on a un coût du travail qui est effectivement plus important que dans certains pays proches de l'Europe.
Pourquoi vous ne produisez pas dans ces pays-là d'ailleurs ?
J'ai des concurrents qui travaillent dans ces pays à bas coût et qui produisent ces véhicules dans des pays à bas coût. Moi, ma philosophie, c'est bien de défendre cet emploi national, de défendre nos territoires. Je suis très fier d'être vichyssois, très fier de développer l'activité économique vichyssois, comme je suis aussi fier d'être en Vendée dans notre usine.
Et au-delà de ce patriotisme des mots, il y a sans doute un intérêt du chef d'entreprise.
L'intérêt du savoir-faire, l'intérêt du travail bien fait, l'intérêt de l'accompagnement économique, l'intérêt et la fierté, je garde ce mot-là.
Toujours sur cette question du salaire, votre voisin, grand voisin régional qui est installé à Clermont, Michelin, a annoncé la mise en place il y a quelques semaines, je reprends l'expression, d'un salaire décent, en moyenne entre 1,5 fois et 3 fois le salaire minimum. Donc Michelin a reposé la question du salaire en France, du pouvoir d'achat, en expliquant le SMIC en France n'est pas suffisant. Est-ce que ce serait possible chez vous, est-ce que vous vous interrogez sur la rémunération de vos salariés ?
Alors Michelin est notre champion régional, Auvergnat, une entreprise qui a toujours montré une voie. Chez Ligier, aucun collaborateur n'est payé au SMIC. Nous avons une importance dans
personne au SMIC sur les 500 salariés.
Personne au SMIC, et c'est important pour moi d'avoir des collaborateurs qui soient motivés, impliqués. On partage la valeur avec nos collaborateurs. Quand on le peut, on partage nos résultats avec nos collaborateurs, et c'est important que cette équipe elle soit au cœur de notre système.
Entre 1,5 et 3 fois, ça vous paraît jouable ? Je ne sais pas où
ça quelle me paraît est l'échelle
de salaire.
Ça me paraît jouable.
Dernière question de Bernard de Lille. J'ai parlé du passé de votre entreprise. La bonne santé de Ligier peut-elle être synonyme d'un retour en Formule 1 ? En forme de boutade peut-être de Bernard.
La Formule 1, c'est un sport extrêmement incroyable, très spectaculaire et très spectacle aussi. Les investissements pour atteindre maintenant cette excellence sont complètement irréels et disproportionnés. Et puis, la Formule 1, c'est loin de l'industrie décarbonée, c'est loin de la voiture électrique et c'est certainement une autre histoire dont on est fier par notre passé mais qui ne construira pas notre futur.
Vous ne suivez pas la Formule 1 vous-même, François
mais
Ligier ?
Plus maintenant, non, j'avoue.
Ça ne vous intéresse plus vraiment. Eh bien, merci en tout cas d'avoir participé à ce 13-14 et d'avoir répondu aux très nombreuses questions aujourd'hui de nos auditeurs. 13h45 sur Inter.
Merci beaucoup.
Sujet relié à l'électrification et aux batteries électriques dont nous parlions à l'instant. Une semaine dans leur vie, nous sommes cette semaine avec notre feuilleton dans cette France des panneaux solaires. Près de 500 000 foyers consomment aujourd'hui l'électricité qu'ils produisent, plus 80% entre 2022 et 2023. Nous allons donc essayer toute cette semaine de comprendre ce phénomène et ses conséquences. Première étape aujourd'hui dans une famille qui s'est convertie au photovoltaïque. Delphine Simon nous emmène chez Jean-Pierre Verborg, agent immobilier dans le Var. Il a fait installer 16 panneaux sur sa toiture.
C'est un peu compliqué à trouver. Vous êtes dans le Haut Var, là. Vous êtes à un peu plus de 500 mètres d'altitude et limite du 04 dans les Alpes et tout, là. Alors, vous avez le lac de Sainte-Croix et après les Alpes de Provence, Moustier-Sainte-Marie. Bon soleil, vous voyez, ma voiture est en charge. Mes panneaux envoient du steak et puis voilà.
Je m'appelle Jean-Pierre Verborg. J'ai 55 ans et j'ai la chance d'habiter dans le Haut Var sur la commune de Ops. Une vue dégagée, enfin vraiment plein sud. Dès le matin, j'ai le soleil qui commence à taper sur les quatre premiers là, et ensuite, vous voyez, sur l'intégralité de mon installation, 16 panneaux là qui envoient. Avec un soleil comme aujourd'hui, j'ai pu brancher mon véhicule électrique. Ce que je produis est envoyé dans mon tableau électrique et consommé. Ce qui n'est pas consommé, j'ai l'avantage d'avoir le compteur Linky qui sait gérer en fait la production et la consommation. Ce qui est en surproduction est envoyé directement dans le réseau d'EDF. La maison est récente. Il y a la climatisation dans la maison, chauffage par pompe à chaleur, les volets électriques partout. Là, j'ai mon chauffe-eau. Je suis passé au tout électrique parce que j'étais plus dans cette démarche où on est quand même dans un secteur parc régional naturel du Verdon. C'est quand même assez, vous voyez, proche de la nature. Donc on va voir ce que je produis, ce que je consomme.
Allez-y, entrez. Il n'y a plus de piles. Alors regardez, vous avez mon épouse Nicole.
Dès que le soleil arrive, vers 9, entre 9 et 10, je commence à mettre mes machines, mon sèche-linge et le lave-vaisselle après le repas de midi. On habite Ops, un très joli petit village dans le Haut-Var. Ça fait bien une dizaine d'années maintenant. Et je m'y sens bien. C'est un retour aux sources.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette formule ?
L'économie. On est quatre à la maison. Il y a beaucoup de machines qui tournent tous les jours. Je pense que oui, en étant en pleine nature comme ça, plutôt qu'en ville, on a plus envie de faire attention. Que ce soit l'électricité et même faire le tri.
Oui, on était en appartement.
On était en appartement déjà, c'était moins facile.
Dans une ville. tout ce qu'on peut voir à travers les médias, la planète va pas très très bien. Hein, c'est peut-être qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, mais on déculpabilise un petit peu en fait hein, à travers tout ça. Et puis aussi, il y a le souci de l'économie. Hein. Moi, quand j'ai senti le vent tourner au niveau des factures énergétiques avec le conflit en Ukraine, là, pour le coup, j'ai anticipé. Donc, j'ai fait faire des devis d'installation et puis on s'est lancé. Quoi. Là, actuellement, on se rend bien compte que mon chauffe-eau tourne, on l'entend. Alors, est-ce que vous voulez qu'on jette un œil sur la consommation des panneaux? Mais ici, sur Internet, c'est toujours intéressant. On va regarder. Et là, vous voyez, on est directement. Vous voyez, dépendance réseau, 53%. Donc, vous voyez, je consomme quasiment ce que je produis. Vous voyez, je produis 4,4 kg. Je consomme 4,9 kg. Et les 0,5 entre les deux, et ben, je vais les chercher chez EDF. Alors après, si on prend les factures, on va aller directement chez EDF. Hein. Tac. Alors, code de vérification, hyper ouais. Sécurisé, c'est très bien. Vous voyez, regardez, ma consommation d'électricité, facture du mois de septembre est à 447,34€, septembre 2022. On va aller chercher la facture de septembre 2023, 371,17€, en sachant que le coût de l'électricité a augmenté de plus de 25%. On peut considérer aujourd'hui, j'ai fait une économie de 35%. L'amortissement de ces panneaux, c'est 8 ans. J'en suis déjà à 1 an, il m'en reste 7 ans. Et avec une garantie, je crois que c'est 20 ans sur les panneaux solaires. On devrait, sur les constructions neuves, on devrait, je pense, imposer les panneaux solaires. Là, surtout sur une région comme chez nous, avec une exposition plein sud, vous vous rendez compte.
Et demain, nous serons chez un assembleur de panneaux, pas très loin du Var, à Marseille.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, 13h49, le lundi, l'histoire d'un lieu qui éclaire l'actualité. Et aujourd'hui, au premier jour de la visite d'État du président chinois, nous sommes dans le Loiret, avec vous Thomas Snegaroff, direction Montargis.
Étrange, et même les actualités régionales du centre en 1966 sont étonnées.
Non, Centre Actualité n'est pas allé pour vous jusqu'en Chine, malgré tout le désir que ces reporters manifestent toujours de vous présenter des actualités originales. Cependant, vous ne vous y trompez pas, ces jeunes gens et ces jeunes filles ne sont pas tout à fait semblables à ceux qui, durant l'année scolaire, occupent les locaux du lycée technique nationalisé de Montargis, dans lequel nous nous trouvons maintenant. En effet, nous avons rendu visite pour vous à un groupe de jeunes étudiants chinois qui séjournent actuellement dans notre région.
Mais pourquoi ces étudiants chinois à Montargis en plein été 1966 et quel rapport entre Montargis et la visite d'État actuelle de Xi Jinping? La réponse, c'est une relation très surprenante et très spéciale entre la capitale du Gâtinais et la République populaire de Chine. La preuve, la mairie a un temps espéré que le président chinois Xi Jinping fasse un crochet vers la sous-préfecture du Loiret. Il n'y passera pas, il ne viendra pas inaugurer un pont en construction sur le Loing, une rivière qui, bien que dans le Loiret, est un affluent de la Seine. Petite information au passage.
Ouais, mais pourquoi c'est toujours bien glissé dans un dîner.
Absolument, et au jeu des 1000 euros. Mais ouais. Pourquoi aurait-il pu venir l'inaugurer, ce petit pont? Eh bien, parce qu'il a été offert par la Chine à Montargis.
D'où ma question, pourquoi la Chine offre-t-elle un pont à la ville de Montargis?
C'est en effet la bonne question, Jérôme, et celle qui me permet de vous raconter l'incroyable histoire qui lie Montargis à la Chine, et plus particulièrement à la Chine communiste. Il faut, pour comprendre, revenir au tout début des années 1920, quand un groupe de jeunes chinois révolutionnaires, d'amis de Mao, restés lui en Chine, connus comme le groupe du Hunan, leur province d'origine, va se réunir au jardin d'Urzi de Montargis pour discuter du futur de la Chine. Et à la suite de cette rencontre, en juillet 1920, Cai Ezen, le théoricien du groupe, écrit à Mao pour lui proposer la création du Parti communiste chinois. Voilà ce qu'il écrit à Mao.
J'ai récemment étudié les différents concepts et trouvé que le socialisme était le véritable remède pour transformer le monde actuel, y compris la Chine.
Et oui, Cai Ezen avait la voix de Frédéric Pommier. Un an plus tard, naîtra le Parti communiste chinois.
Mais pourquoi Montargis et que reste-t-il de cette histoire dans la capitale du Gâtinais, comme on la surnomme?
Alors au départ, rien à voir avec le Parti communiste chinois. Tout part de Li Xinzheng, un philanthrope et admirateur de la culture française qui a étudié au lycée agricole du Chinois à Montargis. Il va lancer en 1912 le mouvement Travail-Études, dont le but est de permettre de financer les études de Chinois en les embauchant dans des usines françaises. Entre 1912 et 1927, 4000 jeunes Chinois viennent ainsi en France, dont 400 rien qu'à Montargis, et parmi eux d'ailleurs, au passage, un certain Deng Xiaoping, le successeur de Mao, qui travaille alors en France comme ouvrier dans l'usine Hutchinson. En 1982, le maire de Montargis, Max Nubla, aura l'honneur d'une rencontre privée avec Deng à Pékin, au cours de laquelle il lui parlera, Deng Xiaoping, avec émotion de sa découverte des croissants. Et en 2014, une place Deng Xiaoping a été inaugurée à Montargis, une ville dans laquelle, au lycée, on apprend depuis toujours le mandarin et où donc un pont offert par la Chine sera inauguré dans quelques mois.
Le mystère chinois de Montargis est donc éclairé grâce à vous, Thomas Negaroff. De « C'est la France, ah c'est une chanson », on retrouve Thomas, votre complice, Frédéric, qui aujourd'hui est avec une immense vedette, c'est Enrico Macias.
Plus de 60 ans de carrière, des dizaines de disques, des milliers de concerts. Et il sera sur la scène de l'Olympia la semaine prochaine. Enrico Macias vient par ailleurs de sortir un quadruple album de musique en musique, coffret dans lequel on retrouve près de 90 titres. Et c'est de Dalida qu'il a souhaité parler à travers son premier grand succès, Bambino, une adaptation d'une chanson napolitaine qui accompagne Enrico Macias depuis sa jeunesse à Constantine.
Au début, je jouais de la guitare dans l'orchestre de Cher Raymond, qui était mon beau-père par la suite. J'ai eu envie de chanter des chansons françaises. Et la première chanson que j'ai interprétée, évidemment, c'est une chanson populaire comme j'aime. Bambino, que Dalida nous a fait connaître par sa grande interprétation. Et j'ai un souvenir, parce que mon père enregistrait souvent, il avait une machine qui enregistrait sur des disques souples. Et je me rappelle, j'étais au magasin avec mon papa et Cher Raymond, et au magasin de disques qu'il avait, et il m'a enregistré en train de chanter Bambino. Mon père était tellement fier de moi, de m'entendre chanter cette chanson-là, qu'il l'a diffusée dans tout le quartier. Il a mis des haut-parleurs et puis il a diffusé la chanson.
À ce moment-là, vous aviez quel âge ?
16 ans, 17 ans, vous voyez ?
Et c'est quelques années après que vous l'avez rencontré. Comment s'est passée cette rencontre ?
Alors, un jour, j'apprends que Dalida va venir se produire à Constantine. Et j'étais la voir dans son hôtel. Elle était très sympa avec moi. Elle était très bienveillante.
Mais vous aviez une idée en tête à ce moment-là ?
J'avais une idée parce que j'avais commencé à écrire des chansons et je voulais qu'elle chante mes chansons. Et elle me dit, là, j'ai pas le temps maintenant, mais je vais aller à la piscine de Sidi M'Sid pour tourner quelque chose. Je viendrai vous rejoindre à la piscine. Moi, je me suis débrouillé, j'étais direct à la piscine de Sidi M'Sid, de Constantine. Je l'ai attendue et elle est venue. Elle est venue, nous étions sur les gradins de la piscine. Là, je lui ai interprété des chansons. Et elle m'a dit, elles sont très très belles. Quand vous viendrez à Paris, venez me voir.
Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux.
Et finalement, elle n'a pas chanté vos chansons.
Finalement, non, parce que quand je l'ai revue à Paris, moi-même, je commençais déjà à chanter. Mais on s'est revus sur les plateaux de télévision. Et d'ailleurs, nous avons chanté en duo, et ça, c'était le rêve de ma vie, Bambino. Et c'était magnifique, magnifique.
Je sais bien
que tu m'adores, Dalida, Dalida, et que j'ai de jolis yeux, Dalida, Dalida. Mais je suis trop jeune encore. Enrico, elle me disait, Enrico, Enrico, pour jouer les amoureux, c'est drôle.
Elle a donc commencé par être une de vos idoles, on peut dire, quand vous étiez en Algérie.
Oui, et c'est devenu une grande amie à moi. De temps en temps, elle m'invitait chez elle à la maison. Je mangeais avec elle, avec son frère Orlando. C'était des bons souvenirs. Non, elle était vraiment fantastique.
L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme elle est grande.
De votre point de vue, qu'est-ce qu'elle avait de si singulier, Dalida, et de si précieux ?
D'abord, elle était sincère dans ce qu'elle faisait, très honnête avec son public et avec elle-même. Et puis, elle était, quand vous avez parlé de singularité, elle était vraiment exceptionnellement grande chanteuse. Une voix unique.
Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi.
J'ai eu une peine immense lorsqu'elle est décédée. Je l'ai pleuré. C'était vraiment un moment très pénible pour moi parce que j'ai pas admis qu'elle se suicide. J'ai pas admis qu'elle parte de cette façon. J'ai dit c'est dommage, quoi. C'est dommage.
Pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera.
Quel conteur! Bambino, Dalida, c'était donc Frédéric, le choix d'Enrico Macias.
Enrico Macias, actuellement en tournée et sur la scène de l'Olympia les 18 et 19 mai.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Oui, bonjour Jérôme.
Quel est le programme aujourd'hui ?
Eh bien, nous allons parler adaptation à l'heure du réchauffement climatique.
A tout de suite dans la Terre au Carré.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Articulé, je vous l'ai déjà dit sur cette...